Initiation, illumination, libération. Est-il possible d'atteindre l'illumination spirituelle sans un processus initiatique? De Francisco Casanueva Freire. Introduction. Le sujet que nous abordons dans cet exposé est d'une extraordinaire importance, car il touche directement le noyau même de la condition humaine, la conscience de soi. De cette conscience d'être émane tout ce que nous définissons comme proprement humain, à savoir raisonnement, discernement, libre arbitre et créativité. Chacun de nous a conscience de lui-même et cette conscience nous permet de penser ce que nous sommes et qui nous sommes. Ceci définit notre identité. Et cette identité est le résultat d'un ensemble d'attributs que nous avons récoltés tout au long de notre vie. Mais tous ces attributs proviennent, dans leur quasi-totalité, de l'extérieur de notre être, du monde extérieur et de ses conditionnements. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, on utilise l'adjectif illusoire pour décrire la nature de cette personnalité et de son identité. Ce que nous sommes vraiment, nous ne le savons pas. Et comme nous ne le savons pas, nous ne le connaissons pas non plus. Les trois questions suivantes que la voix de la sagesse pose depuis des temps immémoriaux à chaque être humain s'approchant d'elle, qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu, n'ont pas perdu de leur valeur. Elles sont très actuelles et continuent d'exercer une très forte pression sur nos consciences. En traitant ce sujet, nous allons probablement effleurer, ici et là, le tissu de la conscience personnelle du lecteur, et il est possible que cela puisse parfois l'incommoder. Mais si nous voulons parler d'initiation, d'illumination et de libération, nous devons indubitablement pénétrer dans la nature même du savoir et de la connaissance. Car comment pouvons-nous connaître ce qui est vrai sans ajuster auparavant l'instrument dont nous disposons pour cela? L'instrument que nous possédons pour rechercher la vérité et par conséquent pour obtenir les réponses aux trois questions posées est notre conscience. C'est pourquoi tout ce qui influence la conscience doit être observé minutieusement. Lorsque nous parlons de conscience, nous ne nous référons pas à la capacité de raisonner, à la capacité d'analyse logique, ni aux mécanismes qui nous donnent la possibilité d'exprimer des pensées avec des mots et des phrases construites selon un ordre logique. La raison ne constitue qu'un seul des composants de la conscience, l'un de ses instruments. Mais il y en a d'autres, semblables ou même plus importants, comme par exemple tout ce qui se rapporte à la vie de nos sentiments, de nos désirs, de nos souhaits, de nos peurs et de nos émotions. En somme, tout ce qui touche notre fibre sensible. Mais la vie de nos pensées et de nos sentiments ne ferme pas non plus le cercle de ce qui afflue à la conscience. Notre force de volonté, notre constance, notre capacité de résistance, en bref, tout ce qui se développe dans le cadre de notre volonté, a aussi une importance décisive pour la constitution de notre conscience, bien que nous confondions trop facilement ce que nous voulons, volonté, avec ce que nous désirons, désir. Et très souvent, nous ne savons pas si ce que nous pensons est le résultat d'un processus logique, rationnel, ou si c'est le résultat d'un processus lié au désir ou à la volonté, qui finissent par déformer la logique et s'imposer à la raison. Nous avons tous fait l'expérience de ces phénomènes. C'est pour toutes ces raisons que dans les systèmes d'initiation pythagoriciens, l'initiation était précédée d'une phase initiale, celle de la purification. Cette purification est incontournable pour arriver à ce que notre conscience soit suffisamment claire, intense et transparente pour regarder la lumière sans être éblouie. La condition sine qua non de cette purification elle-même et que nous soyons capables de discerner les processus qui confluent pour former nos états de conscience. Cette phase de purification comprend divers facteurs. Premièrement, l'élimination et la suppression progressive de tous les éléments qui perturbent ou provoquent une distorsion de notre conscience, comme par exemple la consommation d'alcool et de drogue. Deuxièmement, l'observation sereine de notre vie intérieure, c'est-à-dire la vie de nos sentiments, de nos volitions et de nos pensées, pour pouvoir constater de quelle manière ils influencent la formation de nos opinions, de nos dispositions et nos états d'âme. Ici, nous devons tenir compte en particulier du cadre de nos sympathies et de nos antipathies. Troisièmement, la formation d'un édifice éthique solide basé sur les principes spirituels et la lutte pour les maintenir intègres. Avant d'aborder la libération, il faut donc envisager un triple processus défini par les mots purification, initiation et illumination. Chacun de ces mots, pris dans l'ordre, conduit à l'autre et en ouvre tous les possibles. Cependant, la conquête du premier n'ouvre pas automatiquement au deuxième. Nous pourrions associer le processus de purification à la conception, le processus de l'initiation à la gestation, et le processus de l'illumination à la naissance. Le processus de la libération serait alors associé à la croissance et au développement d'un être adulte autonome et libre. La purification nous prépare à ce que l'Esprit Saint puisse féconder en nous le germe d'un être intérieur nouveau. Les Rose-Croix classiques parlaient de la fécondation de la semence Jésus dans le cœur, la rose du cœur. L'initiation est donc comparable à une gestation et coïncide avec le développement de tous les organes qui vont permettre à ce nouvel être intérieur de se manifester et de s'exprimer. L'illumination est le contact direct de ce nouvel être intérieur avec la vie elle-même. C'est respirer pour la première fois dans le souffle divin. C'est sortir du champ de la matrice et entrer dans le monde de la lumière. La libération est le processus qui permet à ce nouveau-né de croître, de se développer et d'obtenir la capacité de porter à terme son plan de vie de façon indépendante. Les trois parties de cet exposé ne traitent donc pas de choses déconnectées entre elles, mais représentent les différentes étapes du chemin qui conduit de l'homme matériel terrestre à l'homme spirituel céleste, selon un processus très précis. Il est également essentiel, en lisant cet ouvrage, d'avoir toujours présent à l'esprit que savoir n'est pas la même chose que connaître et que ce que nous savons n'est pas toujours vrai. Ainsi, les paroles connues de Socrate, « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien », paradigme de la position d'un véritable sage, deviennent plus compréhensibles. Et maintenant, après cette introduction, abordons notre thème lui-même. Première partie, initiation. Que se cache-t-il derrière ce mot dont on a tant abusé? Quelle est sa relation avec le dévoilement de la découverte du monde intérieur de l'âme et de ses symboles? Peut-on parvenir à l'illumination spirituelle sans un processus initiatique? L'initiation, synonyme d'école des mystères. On a beaucoup écrit sur l'initiation et l'on trouve les choses les plus surprenantes ou pittoresques à côté des choses les plus mystérieuses ou même incompréhensibles. Nous allons exposer notre concept de l'initiation sous une forme simple, sans pour autant tomber dans la banalité. Ainsi, chacun pourra se faire une idée la plus concrète possible de ce que l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, à laquelle nous nous référons ici, entend par initiation. Réfléchissons tout d'abord sur la signification du mot « initiation ». C'est un mot dont la racine est très présente dans notre langage courant. Lorsque nous lisons « cours d'initiation à la musique, par exemple, nous savons qu'il s'agit d'un cours dans lequel vont être données les premières idées de base sur la musique. Le mot « initial » signifie « commencement de quelque chose ». Il désigne aussi la première lettre d'un mot. Comme synonyme d'école d'initiation, nous utilisons le terme « école des mystères ». Ceci indique donc très clairement que ces écoles d'initiation se dédient à pénétrer les aspects mystérieux de la vie. Mais nous pourrions tout aussi bien le dire d'une école universitaire, de médecine par exemple, car on y étudie aussi le mystère de la vie, un mystère qui, jusqu'à maintenant, n'a été découvert qu'en partie seulement. Le mot « découvrir » est lui aussi en relation avec l'initiation et avec le mystère, car la véritable réalité est comme couverte par un voile que nous devons ôter pour la contempler. Découvrir quelque chose signifie ôter ce qui le couvre, c'est-à-dire enlever tout ce qui s'interpose entre sa réalité et notre conscience. Ce que nous découvrons ainsi existait déjà avant. Mais toute notre vie a été construite sur une base qui ne tenait pas compte de cette réalité cachée. En découvrant cette dernière, notre vie va donc être réévaluée et réorganisée selon la nouvelle réalité que nous contemplons. C'est ainsi que cette découverte nous initie, qu'elle nous fait commencer une nouvelle étape existentielle. Le système d'initiation de la Rose-Croix moderne. Comme nous le disions précédemment, la véritable essence de notre être nous est inconnue et de ce fait, quand on nous demande « Qui es-tu ?», nous ne pouvons pas répondre autre chose que « Monsieur ou Madame un tel », nous référant au nom qui identifie notre personnalité. De cette manière, nous ne disons pas grand-chose sur nous-mêmes, car ce nom ne nous appartient pas vraiment en propre, puisqu'il nous fut donné par nos géniteurs. Pour la plus grande partie des êtres humains, notre véritable identité est un mystère couvert par de nombreux voiles. La plupart des systèmes d'initiation partent de l'hypothèse que l'être humain participe de deux natures, de deux origines. D'une part, une personnalité naturelle biologique, originaire du champ de vie terrestre, dotée d'immenses possibilités et capacités, authentique joyau de l'évolution naturelle, mais programmée pour une existence éphémère, affectée en permanence par la maladie et le déclin physique. Et d'autre part, un être de nature spirituelle, d'origine divine, qui s'incarne dans la personnalité naturelle de façon à disposer d'un véhicule grâce auquel il peut se manifester et s'exprimer. Son intention est de réaliser, avec la collaboration de l'être naturel, une interconnexion grâce à laquelle les deux pourront se rencontrer et se reconnaître mutuellement, scellant ainsi une alliance impérissable. Tous ces systèmes d'initiation s'efforcent par conséquent de préparer la personnalité naturelle à cette rencontre, de la rendre apte à recevoir la révélation de l'être divin intérieur. Pour résumer, nous pouvons dire que ces systèmes se regroupent en trois catégories. Premièrement, les systèmes qui essayent de diviser la conscience de la personnalité, c'est plus ou moins ce qui arrive quand nous dormons, par des exercices et des invocations, pour ensuite s'élever, la conscience étant libérée du conditionnement du corps, vers les sphères du monde des pensées, et là, obtenir une connaissance de première main. Deuxièmement, les systèmes qui s'efforcent de conduire la personnalité à un état de pureté et de subtilité extrême, de façon à ce que la lumière du penser divin puisse se refléter en elle et s'y manifester. Troisièmement, le système qui s'efforce de réaliser la transmutation alchimique de la structure moléculaire de la personnalité naturelle, de façon à ce que le résultat soit une nouvelle personnalité. Soulignons cependant que, bien qu'apparemment celle-ci soit semblable à la précédente, elle en diffère, car elle a été construite à partir d'un ensemble d'informations différents de celui qui a conditionné la formation du corps biologique, avec des atomes et une substance d'une nature très supérieure à ceux qui se rencontrent normalement dans notre champ de vie planétaire. La Rose-Croix moderne utilise ce troisième type de système d'initiation. À notre avis, ce troisième type de système a beaucoup d'avantages, car en plus d'arriver au même résultat pratique que les deux autres cités antérieurement, il place le candidat dans une situation très favorable face à la libération, comme nous allons l'expliquer dans la dernière partie de cet ouvrage. En outre, il évite tous les inconvénients et dangers consécutifs à la division ou à la culture de la personnalité. Pour poursuivre le fil de notre exposé, répétons qu'à l'intérieur de l'être humain, et à l'état plus ou moins latent, on rencontre l'être divin lui-même. Cet être divin est une étincelle du grand feu divin universel. En elle, toute la sagesse de la divinité en puissance est comme reflétée. Pour pouvoir faire parler cette sagesse, le candidat à l'initiation doit ouvrir sa conscience au vocabulaire des mystères et apprendre à conjuguer ses verbes. Ce langage ne s'enseigne pas comme cela se fait dans une école de langue. S'il en était ainsi, il suffirait de s'inscrire à un petit cours sur Internet. On n'aurait pas besoin de disposer d'une école initiatique et de tous les efforts qu'elle implique. Le langage des mystères n'est pas irrationnel, mais il est édifié à partir d'une logique très différente de celle que nous manions habituellement, quand nous la manions. Du fait de sa complexité, ce langage s'est transmis par des mythes, des symboles, des images, des allégories, des allusions. Et lorsqu'il en avait atteint la limite, il s'exprimait en utilisant le paradoxe. Au cours du processus de l'initiation moderne, le candidat est progressivement conduit dans un apprentissage qui ouvre peu à peu les perspectives de sa vision de la triade, Dieu, le cosmos et l'être humain. Il devra assimiler beaucoup d'enseignements pour obtenir une vision adéquate des interrelations qui existent entre les choses formant la réalité de notre vie et pour comprendre de façon réfléchie quelle est sa place parmi toutes ces choses. Tout cela lui permettra d'avancer pas à pas dans la compréhension des suggestions subtiles provenant de son être divin central comme un lointain appel. Mais pendant que ce flux puissant de lumière est absorbé par sa conscience purifiée, son intellect s'évertue à tout reformuler selon un schéma binaire. Donc, au moment même où surgit une nouvelle animation spirituelle, au moment de la naissance de l'âme-esprit, fruit de l'union du haut et du bas, du spirituel et du matériel, un renforcement des structures illusoires se produit également, aussi bien mental qu'astral, c'est-à-dire intellectuel et émotionnel, comme sous-produit ou précipité du processus alchimique de séparation de la lumière et de l'obscurité. C'est ainsi que tôt ou tard, le candidat au mystère est confronté à un ennemi intérieur qui bloque en permanence les circuits de son système nerveux cérébrospinal, l'empêchant d'accéder à la contemplation. L'initiation n'est pas un simple système d'apprentissage. C'est aussi un combat intérieur, une lutte entre l'homme nouveau qui est en train de naître, sous la lumière irradiante de la gnose et du savoir divin d'une part, et d'autre part, le vieux manteau astral et mental qui ne peut pas permettre que le centre de gravité vitale soit déplacé en dehors de son contrôle. Comme vous le comprendrez, dans tout processus initiatique, les efforts doivent être entièrement concentrés sur l'obtention d'une conscience lucide de la véritable nature humaine et de ces deux champs de manifestation que l'on définit habituellement comme étant le bien et le mal. Dans ce processus, il ne s'agit pas d'une approche morale basée sur un décalogue de bonnes manières, mais de la connaissance profonde des causes mêmes de ces projections morales. Le jeu habituel de la bonté et de sa contrepartie est complètement démasqué et toute hypocrisie est mise à nu par l'observation intelligente du candidat. Et si la préparation a été bien menée, aucune émotion ne surgira en lui, ni acceptation, ni rejet. Pour récapituler, l'initiation et tout son processus consiste en l'ouverture progressive de la conscience du candidat au courant de la lumière de la gnose et à sa compréhension simultanée grâce à la découverte du langage des mystères. Cette initiation n'est pas un ensemble de cérémonies célébrées par un puissant hiérophante, mais un ensemble d'impressions qui ouvre d'une part sa compréhension de la réalité de l'âme esprit et de l'autre la réalité de sa vieille nature qui s'oppose à lui. Il s'agit donc pour le candidat d'un combat intérieur, d'une croissance spirituelle et d'une compréhension de la parole vivante de la langue des mystères. Ce processus culmine dans la découverte de sa véritable identité d'être humain. C'est pourquoi les initiés disent souvent qu'ils ont reçu un nom nouveau et que beaucoup d'initiés changent de nom à ce moment du processus. Mais attention, celui qui a traversé avec succès l'initiation n'est pas encore illuminé. L'illumination est le résultat, le prix qui couronne tout l'effort vécu.